Delanoë, bonjour.
Bonjour.
Et cette question à la une ce matin, où est Peng Shuai, cette championne de tennis chinoise disparue après avoir dénoncé des violences sexuelles? Un média d'État chinois affirme qu'elle est libre ce matin et que nous la verrons bientôt en public. Nous serons en Chine dans une minute. Les autres titres, Lauriane.
Les plus de 40 ans recevront-ils bientôt une troisième dose de vaccin anti-Covid? C'est la recommandation de la Haute Autorité de Santé. En Guadeloupe, la mobilisation anti-pass devient quasi insurrectionnelle. Le mot d'un député LREM, nous l'entendrons et nous verrons deux ambitions ce matin sur France Inter. D'abord celle de Jean Castex pour le tourisme en France. Objectif, faire de la France la première destination du tourisme durable. Et l'ambition d'Éric Zemmour, remplir le zénith de Paris malgré des couacs dans sa vraie fausse campagne.
Ils sont 300 000 en France, trop souvent victimes de violences, en foyer ou en famille d'accueil. Les enfants placés, un rapport sur la question est remis ce matin au secrétaire d'État chargé de l'enfance et de la famille, Adrien Taquet, qui est notre invité à partir de 8h20.
Dans le journal des sports de Laetitia Bernard, dans une dizaine de minutes, double ration du meilleur des rugby. Les hommes et les femmes du 15 de France face à la Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, nous voilà servis.
France Inter.
Cette question taronde donc le monde du sport, les dirigeants également depuis quelques jours. Qu'est-il arrivé à Peng Shuai? Et cette chinoise championne de tennis a dénoncé des viols et agressions sexuelles. C'était au début du mois. Depuis, plus rien, elle a disparu. Pour la première fois ce matin, un média chinois d'État donne des nouvelles, des informations divulguées sur Twitter, Dominique André.
Peng Shuai se trouve librement à son domicile. Elle ne veut pas être dérangée. Elle apparaîtra bientôt en public pour participer à des activités. Le message est publié aujourd'hui par le rédacteur en chef du Global Times, journal d'État chinois. Hou Siting, un proche du pouvoir, divulgue ces informations qui proviennent de ses propres sources, précise-t-il, sur Twitter, bloqué en Chine. Il faut en effet un logiciel de contournement de la censure pour y accéder. Le message est donc destiné clairement à l'étranger. Des photos de l'ancienne championne de tennis souriante, entourée de peluches, un chat dans les bras, avec en arrière-plan une photo d'elle avec Winnie l'ourson, sont apparues aussi hier sur les réseaux sociaux, mais leur authenticité n'a pas été vérifiée. Toutes ces publications font suite à une mobilisation internationale pour obtenir des informations sur le sort de Peng Shuai, mais il n'y a pas un mot dans les médias chinois. L'affaire qui met en cause un ancien haut dirigeant chinois, selon les accusations de Peng Shuai, est complètement censurée en Chine. Pékin, Dominique André, France Inter.
Et l'ONU demande des preuves que la championne va bien, de savoir où elle est. Une affaire qui tend un peu plus, s'il le fallait, les relations diplomatiques à quelques mois des Jeux Olympiques d'hiver, justement en Chine. Le Premier ministre britannique envisage à son tour un boycott diplomatique de ces JO. Cela voudrait dire que les athlètes iraient, participeraient à Pékin, mais pas les ministres du Royaume-Uni. Des discussions sont en cours au gouvernement britannique, selon les médias ce matin à Londres. Les États-Unis, déjà dans la semaine, ont brandi cette menace de boycott au nom de la défense des droits de l'homme.
8h03, une troisième dose de vaccin pour les plus de 40 ans.
Voici donc la recommandation de la Haute Autorité de Santé en France face à la cinquième vague de Covid-19 et au vu de différentes études internationales. Alors Sophie Bécherel, que préconise précisément la HAS?
La Haute Autorité de Santé s'appuie sur trois études, l'une américaine, les deux autres israéliennes, dont celle parue fin octobre dans la prestigieuse revue médicale The Lancet. Les résultats sur 730 000 personnes ayant reçu une troisième dose montrent une réduction de 92% du risque de faire une forme grave de Covid-19. L'efficacité du rappel est donc recommandée dès 40 ans et 6 mois après avoir reçu la deuxième injection. C'est un vaccin à ARN messager qui doit être utilisé. Une dose de Pfizer ou une demi de Moderna pour toutes les personnes de 40 ans et plus, donc, sauf celles qui avaient reçu du Janssen. Pour elles, que ce soit Pfizer ou Moderna, c'est une dose complète, car ce n'est pas un rappel, dit la HAS, mais un complément de schéma vaccinal. L'instance dit ne pas avoir assez de données pour élargir à d'autres groupes d'âge la vaccination. Elle attend pour se prononcer de nouvelles études et notamment une modélisation de l'Institut Pasteur actuellement en cours. Quant aux personnes infectées par le Covid-19 qui avaient pourtant été vaccinées, La HAS leur recommande de faire elles aussi une dose de rappel 6 mois après l'infection.
Sophie Becherel, spécialiste sciences et santé de France Inter. Emmanuel Macron, le président, attendait cet avis. Il estime qu'il faudra progressivement ouvrir, élargir la campagne de rappel. Pour l'instant, vous pouvez recevoir la troisième dose si vous avez plus de 65 ans ou des comorbidités. Il faut attendre 6 mois après la première vaccination. En ce moment, plus de presque 8000 personnes sont hospitalisées à cause du Covid-19, dont 1350 en réanimation.
En Guadeloupe, la mobilisation contre l'obligation vaccinale des soignants et contre le pass sanitaire vire à l'insurrection.
Pillage, incendie de magasins, violence contre les forces de l'ordre ce dernier jour. Le préfet ordonne un couvre-feu toutes les nuits depuis hier soir 18h. 200 policiers et gendarmes attendus en renfort dans les prochains jours. Il y a urgence, le gouvernement doit entendre la colère, c'est l'appel ce matin d'un député LREM de Guadeloupe. Olivier Serva et d'autres parlementaires demandent une rencontre avec le Premier ministre.
Ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est que l'État, au plus haut niveau, entende la souffrance, l'inquiétude des Guadeloupéens. Depuis août, j'avais eu à voter contre cette loi pass sanitaire obligation vaccinale parce que pour la Guadeloupe, la situation du taux de vaccination conduisait à ce qu'on ne pouvait pas appliquer en l'état cette obligation vaccinale pour les soignants. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a fait la sourde oreille jusqu'à maintenant. Il est temps maintenant que l'État au plus haut niveau entende cette problématique parce qu'aujourd'hui, la situation est quasiment insurrectionnelle en Guadeloupe. Pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que des Français qui aujourd'hui sont dans une situation différenciée ne puissent pas avoir un traitement différencié? Par exemple, c'est une proposition parmi d'autres. Au lieu de l'obligation vaccinale des soignants, pourquoi ne pas leur demander de faire un test PCR tous les 72 heures pour s'assurer qu'ils soient négatifs?
Le député LREM de Guadeloupe, Olivier Serva. La colère explose aussi aux Pays-Bas. Voitures brûlées, destruction au passage de manifestants à Rotterdam hier soir et dans la nuit. La police a tiré. Il y a 7 blessés au moins dans ces émeutes. Des protestations contre les nouvelles restrictions prises contre les personnes non vaccinées. Les autorités redoutent des violences également en Autriche. Après l'annonce hier d'un reconfinement pour tous, ce sera dès lundi. Vaccination obligatoire à partir de février. L'extrême droite et les anti-vaccins manifestent cet après-midi à Vienne. Stop aux violences sexistes et sexuelles, stop à l'inceste et à la pédocriminalité. Voici quelques-uns des slogans qui seront scandés à Paris, dans plusieurs villes de France aujourd'hui. Des rassemblements alors que c'est aujourd'hui également la journée internationale des droits de l'enfant. France Inter donne la parole aux enfants placés. Un étudiant de 26 ans remet aujourd'hui un rapport au secrétaire d'État en charge de ce dossier. Gauthier Arnaud Melchior, lui-même ballotté de foyer en famille d'accueil, a rencontré ces derniers mois 1500 enfants de l'aide sociale à l'enfance. Il retient quelques mesures pour améliorer leur quotidien.
Dans les urgences du chantier, il y a bien respecter les envies des enfants ou leur choix d'orientation, par exemple en matière de scolarité. Des choses toutes simples. Par exemple, je pense à l'alimentation. Dans des institutions, la production des repas, elle est externalisée. Ce qui fait qu'en fait, on a totalement institutionnalisé la vie de l'enfant. Il mange, il ouvre une barquette. Sauf que dans la vraie vie, on n'ouvre pas une barquette, sauf quand on est à l'hôpital. Voilà, essayer de peut-être de remettre des maîtresses de maison, de mettre des odeurs de cuisine dans les établissements pour éviter la déshumanisation de la vie des enfants, améliorer leur quotidien, améliorer leur bien-être. Il y a des enfants qui m'ont parlé d'architecture. Ils m'expliquaient à quel point ils se sentaient mieux dans un établissement où les chambres sont en haut, où c'est un petit établissement, il y a un salon, une cuisine en bas, et que cette forme d'architecture de l'institution, ça leur faisait penser à une maison de famille, et ça avait un impact sur la qualité de leur bien-être.
Les propositions de Gauthier Arnaud Melchior pour le secrétaire d'État à l'enfance, Adrien Taquet, lui répond, il est notre invité, dans une dizaine de minutes sur France Inter. Comment relancer le tourisme après la pandémie? Le Premier ministre présente aujourd'hui son plan Destination France. Il le fera depuis un haut lieu touristique, le Clos Lucé à Amboise, sur la route des Châteaux de la Loire. Jean Castex se donne 10 ans et 2 milliards d'euros pour que la France devienne la première destination mondiale en termes de recettes et pas seulement sur le nombre de visites, Claire Chaudière. Allonger la durée des séjours et les dépenses moyennes par visiteur passera inévitablement par l'amélioration de la qualité des expériences qui leur sont proposées, explique le gouvernement. Pour cela, création d'un réseau d'excellence des formations du tourisme autour de l'université d'Angers, soutien aux start-up touristiques qui innovent, soutien à l'œnotourisme sont au programme, sans oublier des prêts bancaires plus accessibles à destination de l'hôtellerie de moyenne gamme, parfois en difficulté, dans les territoires périurbains ou ruraux. Mais dans 10 ans, la France doit être parallèlement aussi la première destination du tourisme durable, martèle l'exécutif, qui entend financer le verdissement des infrastructures, des trains touristiques, développer les véloroutes, pousser à dépenser plus et mieux en somme. Avec 1,9 milliard donc sur la table, dont une majorité sous forme de prêts, alors l'enveloppe sera-t-elle à la hauteur de ses grandes ambitions? Au total, se défend le gouvernement, les professionnels du tourisme ont tout de même déjà reçu pas moins de 38 milliards d'euros depuis le début de la crise.
Et depuis le début de la crise, des salariés ont quitté les métiers du secteur du tourisme, l'hôtellerie, la restauration. Les ministères vont donc lancer prochainement une campagne de communication pour, je cite, remettre le rêve au cœur de ce secteur.
Le polémiste d'extrême droite Éric Zemmour fait un pas de plus vers une candidature à la présidentielle.
Éric Zemmour l'annonce depuis Londres, il prépare un meeting au Zénith de Paris dans 2 semaines. Est-ce une diversion? Le candidat non déclaré officiellement pour la présidentielle enchaîne pour l'instant quelques ratés, Adrien Becht.
Parler de la campagne future pour espérer faire oublier les difficultés présentes. Voilà pourquoi Éric Zemmour l'a annoncé depuis Londres. Son premier meeting de candidat au Zénith de Paris le 5 décembre. La salle de 6000 places a été réservée il y a 48 heures. L'ex-journaliste annoncera sa candidature quelques jours avant et compte bien aligner les soutiens le jour J. Sauf que pour l'instant, on ne se bouscule pas au portillon. De même, sa vraie fausse campagne entamée en septembre commence à s'enrayer. Dernière illustration, le déplacement à Londres en cette fin de semaine où Éric Zemmour a dû se rabattre sur la salle d'un hôtel bon marché pour tenir sa conférence, sans compter la polémique du Bataclan le week-end dernier, les sondages qui se tassent. Avec cette annonce et ce meeting, l'objectif est donc de se replacer au centre du jeu, raison pour laquelle ce premier événement a été programmé au lendemain du résultat du Congrès des Républicains.
Congrès des Républicains, le 4 décembre, le vote des militants pour choisir leur candidat.
8h12 sur France Inter, l'heure des sports.
Et bonjour Laetitia Bernard.
Bonjour Lauriane.
Bonjour.
Bonjour Jérôme.
Samedi sportif très largement placé sous le signe du rugby.
Avec le match que tout le monde attend depuis des semaines maintenant, le 15 de France masculin va enfin défier la Nouvelle-Zélande. 80 000 spectateurs au Stade de France ce soir. Inutile de chercher un billet à la dernière minute, c'est complet. À 2 ans de la Coupe du Monde en France, cette rencontre est un test référence pour valider tous les projets entrevus depuis l'arrivée de Fabien Galthié à la tête de la sélection. Affronter les All Black, ça signifie d'abord se frotter au AK. Alors, est-ce que les Bleus vont, comme en 1999 ou en 2007, répondre en entonnant la Marseillaise ou en se plaçant nez à nez face aux Blacks? A priori, ce n'est pas au programme, nous dit le demi d'ouverture Romain Tamac.
Non, il n'y a rien de spécial, on va se concentrer sur nous, on va profiter aussi de ces moments-là, des hymnes, de l'arrivée au stade, le stade sera plein, donc Il va falloir qu'on évacue tout ça dès le coup d'envoi, mais je pense qu'il va falloir surtout qu'on profite de tous ces moments, surtout vivre le cas pleinement pour en garder le meilleur souvenir possible et évacuer tout ça dès le coup d'envoi après.
Et cela fait 21 ans que les Français n'ont plus battu la Nouvelle-Zélande à domicile. Le match en France-Nouvelle-Zélande au masculin, c'est à 21h.
Et avant ça, grosse journée aussi pour le rugby au féminin, Laetitia.
Oui, puisque les Françaises aussi ont rendez-vous avec la Nouvelle-Zélande, une équipe néo-zélandaise qu'on appelle non pas les All Blacks au féminin, hein, mais bien les Black Ferns, les Fougères Noires. Des néo-zélandaises, quoi qu'il en soit, championnes du monde en titre et battues la semaine dernière par les Bleus. Alors forcément, ça donne envie de poursuivre sur cette lancée. Les joueuses d'Annie Kerro veulent confirmé et terminé invaincu leur tournée d'automne, Vincent Pellegrini.
Jamais les Françaises n'avaient infligé une défaite d'une telle ampleur aux Black Ferns, les Fougères Noires. 38-13, un succès qui fera date et qui offre aux Bleus une bonne dose de confiance avant de recroiser la route des championnes du monde, confie la demi d'ouverture Caroline Drouin.
Oui, forcément, parce que je pense pas que les Blacks en une semaine auront pu corriger tout leur projet de jeu. Donc voilà, on sait qu'il y a des opportunités, mais on sait aussi que ça demande de notre part de réitérer un gros match.
À 11 mois de la Coupe du Monde, le 15 de France est dans une belle dynamique, des résultats satisfaisants, un jeu séduisant, l'arrivée de nouvelles joueuses. Un groupe est en train de se forger, estime la talonneuse Agathe Socha.
Il y a une identité de jeu, il y a une identité de groupe aussi qui est très forte. Et c'est vrai qu'on a un groupe qui est assez large, on a de nombreuses joueuses et malgré tout, peu importe les filles qui sont sur le terrain, il y a une vraie osmose et ça se sent et ça se ressent dans le rugby. Donc c'est chouette, on essaye de partager ça aussi avec le public qui a pu revenir dans le stade samedi. Et ça, c'est que du bonheur.
Et en effet, la popularité du 15 de France se confirme. Le premier match contre les Néo-Zélandaises a réalisé une très belle audience, 1 500 000 téléspectateurs. Et cet après-midi, le stade Pierre Fabre de Castres fera le plein pour ce dernier test de l'automne.
Un peu de rallye pour terminer, parce que Sébastien Ogier est toujours en course pour un 8e titre de champion du monde. Pour cela, le Français doit s'imposer sur le rallye de Monza ce week-end. Et on assiste à un duel extrêmement serré avec le Gallois Elfyn Evans. Les pilotes ont repris le volant il y a une petite demi-heure maintenant pour la 8e spéciale.
Merci beaucoup Laetitia Bernard, le journal des sports sur France Inter.
Dans le journal de Lauriane Delanoë, le temps de ce samedi.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire, belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Les prévisions de Jean-Michel Golinski.
Une ambiance couleur d'automne aujourd'hui sur les trois quarts du pays. Seul le quart sud-est va profiter d'un large ensoleillement. Dans le sud-ouest, les grisailles risquent de persister assez longtemps en matinée, se doublant en journée de nuages d'altitude en provenance d'Espagne. Et puis sur une large moitié nord du pays, le gris va souvent s'imposer du réveil au coucher avec en prime de fines pluies par intermittence le long de la Manche en seconde partie de journée. Les températures matinales proches de 0 à moins 2 du midi Pyrénées au Poitou-Charentes et du Massif central en allant vers la Franche-Comté et le nord de Rhône-Alpes sont plus douces de part et d'autre, avec par exemple 6 à Rennes et Strasbourg, 7 à Saint-Dizier, Alençon, Biscarrosse et Cannes, 8 à Paris, 10 au Touquet ainsi qu'à Perpignan. Cet après-midi, les valeurs vont globalement indiquer partout le même niveau qu'hier.
Jean-Michel Golinski, Météo France.
Une ambiance